Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Nous sommes le dimanche 1er mars 1881 en Russie. Dans la capitale de l'Empire, Saint-Pétersbourg, le tsar a l'habitude de se rendre au manège pour assister à une parade militaire. Dans un contexte de troubles politiques et de dangers terroristes, malgré les avertissements prodigués par son entourage, Alexandre II décida de faire son devoir. N'avait-il pas déjà survécu à 5 tentatives d'assassinat? Et la voyante qu'il consultait ne l'avait-elle pas prévenu qu'il ne succomberait qu'au 7e attentat? Elle aurait dû lui dire la 7e arme ou la 7e bombe. En effet, sur le chemin du retour, le tsar est la cible de terroristes. Une bombe éclate, une première bombe. Des hommes et des femmes succombent, mais Alexandre II est sauf. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, un chef d'État serait l'objet d'un tel attentat. Il ne faudrait que quelques minutes pour le mettre hors de danger et l'envoyer à des kilomètres en toute sécurité dans le plus grand des secrets. Mais voilà, Alexandre II, lui, à cette époque, se porta au secours des blessés. Le geste de trop. Une deuxième bombe fut lancée, elle lui sera fatale. Quelques heures plus tard, en face de ce corps à moitié déchiqueté, son petit-fils n'oubliera jamais, son petit-fils s'appelait Nicolas II. Pour nous, Français, le 19e siècle semble bien loin. Alors que dire du 19e siècle russe? Pourtant, Alexandre II fait partie de ces hommes que nos mémoires ont à peine effleurés, sûrement par facilité, parfois par indifférence, peut-être par paresse. Et pourtant assassiné au nom entre guillemets du peuple, ce fut pourtant lui qui accorda la liberté à ce peuple en mettant fin au servage. Ce fut lui aussi qui pensa à un régime constitutionnel. Quand la réalité ne compte plus, quand seules les perceptions et les apparences entretiennent les passions, les peuples en deviennent parfois ingrats. Alexandre II est là pour nous le rappeler, et un jour dans l'histoire, vous en propose son portrait avec Hélène Carrère-Dancausse. Hélène Carrère-Dancausse, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Un jour dans l'histoire. Vous êtes secrétaire perpétuelle de l'Académie française. C'est la troisième fois que je vous reçois au micro de Canal Académie. Une première fois, je vous ai reçu sur le discours de 1956 de Khrouchtchev, bien connu, et également sur votre ouvrage « L'Empire d'Eurasie », un ouvrage de géopolitique. Et nous avons décidé, d'ailleurs, au cours de cette émission, peut-être de laisser de côté cette question de géopolitique, de renvoyer nos auditeurs à cette émission et de s'intéresser donc à la politique intérieure de la Russie au XIXe siècle. Alors, d'emblée, dans votre biographie, vous venez de publier une biographie d'Alexandre II chez votre éditeur, aux éditions donc Fayard, Alexandre II, le printemps de la Russie. Et d'emblée, vous engagez votre propos à la fois sur un paradoxe et un contraste. Le paradoxe, je l'ai donné dans mon introduction, le tsar assassiné au nom du peuple, alors qu'il a accordé la liberté au peuple, et ce contraste, celui d'une mort violente, alors que Alexandre II est considéré dans l'histoire, dans l'historiographie, comme un faible et aussi un amoureux.
C'est un personnage qui est tout à fait méconnu. On a beaucoup écrit sur lui, on l'a montré dans des films qui étaient consacrés moins à Alexandre II, en fait, qu'à la femme qui a occupé les 15 dernières années de sa vie, Katia, jouée par des actrices prestigieuses. Et je me demande parfois si ce n'est pas cette histoire d'amour tout à fait extraordinaire, car il ne s'agissait pas d'une favorite, il ne s'agissait pas d'une femme quelconque non plus. Ça a été un amour extraordinaire qui a uni un homme de presque 50 ans à une toute jeune fille. Il l'a rencontrée, elle avait 16 ans. Cela a fasciné les historiens et ils ont considéré que le plus important, c'était cette histoire-là. De surcroît, parce que justement, les historiens ont pensé qu'il avait délaissé les affaires du pouvoir ou qu'il les conduisait tout en s'occupant de sa vie privée, il a acquis l'image d'un faible. On s'est dit, au fond, il n'a pas conduit au bout ses réformes, sans s'interroger sur les réformes qu'il avait faites, sur son programme et sur ce à quoi il était arrivé. Et cette vision d'un caractère faible et d'un homme passionné, donc d'une passion qui intéressait, fait qu'on a retenu cela. Et qu'on s'est rarement intéressé à l'homme d'État, on s'est rarement penché sur son œuvre. Alors de surcroît, évidemment, depuis 1917, les archives russes sont fermées. Alexandre II est mort tout de même en 1881. Les historiens se penchaient peu sur les archives. À cette époque-là, on écrivait plutôt, je dirais, d'une façon impressionniste. L'histoire fondée sur des archives est tardive. Et ce qui fait qu'on avait peu d'éléments pour juger. On avait ce qui se répétait, la vision générale, quelques repères, comme l'abolition du servage. Il se trouve que moi, j'ai eu la chance, comme tous les historiens maintenant, qui s'intéressent à la Russie, d'avoir les archives ouvertes. Et en y allant, j'ai trouvé ce qui m'a permis véritablement de comprendre mieux le personnage. J'ai trouvé des trésors totalement inattendus. Je cherchais les actes d'État, je cherchais ces choses-là. J'ai trouvé d'abord sa correspondance avec son père, la correspondance d'un jeune homme avec son père, qui est révélatrice de beaucoup, je dirais, de son caractère, de la façon dont l'Empire était gouverné, de la façon dont il avait été éduqué. Révélatrice aussi, on pourrait y revenir, d'un moment où l'histoire de la Russie et l'histoire de l'Europe auraient pu tourner, car il a failli épouser la reine Victoria. Tout de même, c'est un épisode qui est passé inaperçu, tout simplement parce qu'il figure dans la correspondance avec le père. Puis j'ai trouvé sa correspondance avec la femme de sa vie. Plus de 4000 lettres écrites par lui pendant 15 ans, deux par jour. 1500 lettres écrites par elle. Vous voyez, elle écrivait moins. Mais deux par jour alors qu'il la voyait tous les jours et qu'il vivait avec elle. Bon, on apprend énormément de choses sur quelqu'un. Ce ne sont pas des secrets d'État, mais on découvre alors une nature. Et ça m'a beaucoup aidé.
Alors, j'ai demandé à Isabelle Schmitz, qui est journaliste au Figaro hors-série et journaliste à Canal Académie, de venir au micro de Canal Académie pour également m'aider à présenter cette émission. Isabelle, vous allez poser la première question.
Merci, chère madame, de nous éclairer sur toutes ces facettes inconnues d'Alexandre II. Précisément, le chapitre que vous intitulez « Alexandre avant Alexandre II » est très intéressant sur sa jeunesse et son éducation. La question qu'on peut se poser, c'est l'éducation donnée par Nicolas Ier à son fils a-t-elle été très orientée en fonction du caractère faible ou influençable qu'il pressentait chez son héritier? Et comment peut-on présenter la différence entre le père et le fils?
Alors, je dirais d'abord l'éducation. Ce qui est intéressant, c'est qu'Alexandre II, de tous les souverains russes, et peut-être de tous les souverains européens de son temps, est l'homme qui a été le mieux préparé, qui a reçu l'éducation la plus appropriée à fabriquer un souverain. C'est tout à fait extraordinaire. Il a été formé, son éducation a été confiée d'abord à un grand poète russe, Joukovsky, qui était un grand esprit, qui a rassemblé toute une équipe. On s'était renseigné, Nicolas II avait fait une enquête dans tous les pays d'Europe sur les meilleures méthodes pédagogiques. Il a voulu que son fils sache à la fois, je dirais, tout ce qui fait un homme cultivé comme on était cultivé en ce temps-là, c'est-à-dire connaissant à la fois les langues étrangères, l'histoire, la littérature de tous les pays européens, etc. En même temps que ce soit un homme d'éducation politique, puisqu'il l'a associé, alors qu'il a atteint l'âge de 17-18 ans, au pouvoir, mais qu'il lui a donné pour professeur tous ses grands ministres. Il lui a fait découvrir ce qu'il appelait le grand livre de la Russie, c'est-à-dire qu'il l'a envoyé jusqu'en Sibérie, suivi de ses maîtres, pour voir ce qu'était son pays, pendant des mois, et puis il l'a envoyé, pendant plus d'un an, visiter l'Europe. Je ne connais pas d'éducation aussi parfaite. Et le but de l'éducation était, vous avez posé une très bonne question, pour Nicolas Ier, était à la fois d'avoir un héritier accompli, mais en même temps un héritier qui serait dépositaire de ce que Nicolas Ier considérait comme essentiel, c'est-à-dire le maintien de l'autocratie en Russie. Il ne faut tout de même pas oublier qu'Alexandre II, lorsqu'il monte sur le trône, va monter dans un moment tragique, puisque c'est à la suite de la guerre de Crimée, mais que Nicolas Ier, c'est l'héritier de 1815, de ce moment où la Russie, ayant, je dirais, vaincu Napoléon, c'est le seul pays qui ait pu arrêter Napoléon sur la voie du succès, ça a été le congrès de Vienne, et véritablement l'Europe de la Sainte Alliance qui se constitue. La conséquence de tout cela, c'est qu'on a une situation de 1815 à 1855, c'est-à-dire au moment où Alexandre II va monter sur le trône, où le grand pays européen, c'est la Russie, autour de laquelle s'organise une constellation d'États, et le pays faible, c'est la France. C'est une situation qu'on n'avait jamais connue. Et évidemment, la France, c'est quoi pour la Russie? C'est le pays de la Révolution française, celui qui a menacé les trônes, celui qui porte des idées révolutionnaires et qui est responsable des printemps des peuples qui se déroulent en 1830, 1848. C'est pas par hasard que j'ai intitulé ce livre « Le printemps de la Russie ». C'est-à-dire, la France, c'est le mauvais pays qui déstabilise un ordre fondé sur le pouvoir monarchique de droit divin et contre lequel, depuis 1815, la Russie brandit, je dirais, le drapeau de la résistance des monarques. Et c'est cela que Nicolas Ier a voulu apprendre à son fils. On l'a envoyé partout pour qu'il voie le monde. Et d'ailleurs, il dit à son fils, quand il l'envoie voyager, il lui dit « tu pourras être séduit par certaines choses, mais sache que ça n'est pas applicable à la Russie », parce qu'il se dit en effet que un certain nombre de pays sont séduisants, mais l'Angleterre, qui a une monarchie très différente de l'autocratie russe, mais il tient à ce que son fils fasse la différence. C'est-à-dire que son éducation a été complète parce qu'il a voulu la compléter par la pratique, même de ce qui ne lui convenait pas. Mais le mot d'ordre de cette éducation, c'est lui apprendre qu'il n'y a qu'un seul système politique bon pour la Russie, mais pense Nicolas Ier aussi pour le reste du monde, l'autocratie, c'est-à-dire un ordre fondé sur la monarchie de droit divin, qu'il ne fallait surtout pas déstabiliser. Et c'est nanti de tout cela que ce garçon d'abord a voyagé à travers le monde. Et il y a eu un épisode dans cette période de son éducation qui est très intéressante, parce qu'il a été proclamé héritier au moment du coup d'État de décembre 1825, c'est-à-dire de la première fois où l'idée révolutionnaire, héritée de la Révolution française, se fait jour en Russie, où ces officiers qui criaient « Vive la Constitution !» ont été soit tués, soit déportés. Et au cours de ce voyage en Sibérie, Joukovski, son maître, qui faisait tout ce que lui disait Nicolas Ier, mais qui en même temps voulait ouvrir les yeux de son élève, a organisé une rencontre dans une église, au cours d'une messe, où ce garçon a rencontré ces officiers qui étaient des malheureux déportés. C'est une scène pathétique.
Une scène poignante. Oui,
scène poignante. Et pour lui, pour ce jeune garçon, élevé dans l'idée que la monarchie avait toujours raison, il y a eu ce face-à-face avec des hommes qui n'étaient pas enchaînés, mais qui étaient exilés, qui étaient misérables, qui l'ont supplié de porter des suppliques à son père. Il les a portés d'ailleurs, et le père a fait quelque chose d'abominable. Il les a reçus par amour pour son fils. Il a dit « je vais faire quelque chose ». Et il a sorti ces gens de Sibérie pour les envoyer au Caucase, la guerre de Tchétchénie d'ailleurs, si on veut, qui était une guerre effroyable et où ils se sont fait tuer. Ça, c'était tout l'esprit, je dirais, retors de Nicolas Ier. Mais c'est dire que c'est une éducation étonnante et qui aurait dû faire d'Alexandre II un double de son père, qui était un autocrate, un homme effroyablement autoritaire, dur, sans imagination, un très bon souverain, il n'y a pas de doute, dans sa méthode de gouvernement, un homme qui tenait son pays, mais qui a été, au moment où il meurt, confronté, je dirais, au désastre de toute son existence, parce qu'il a voulu la guerre de Crimée. Et le résultat de la guerre de Crimée, c'est la défaite de la Russie, le renversement de la situation de 1815. Et au moment où il meurt presque de désespoir, si vous voulez. D'une certaine façon, je dirais qu'il s'est presque suicidé en voyant que tout ce qui avait été acquis par son pays, qui était la grande puissance européenne, se retrouve en un instant au bas, les scènes politiques européennes. Et à son fils, qui va prendre la relève, et c'est là qu'on voit qu'il ne change pas devant la mort, il dit, et surtout, maintiens tout, tiens tout, tel que je l'ai. C'est-à-dire qu'il lui ordonne de ne pas toucher à quoi que ce soit. Et cet homme, ce garçon qui a été élevé pour ne toucher à rien, eh bien, il va tout défaire.
Mais à vous lire, on sent tout de même un homme de caractère. Vous parliez des suppliques. On sent deux temps dans son éducation. Le temps où, finalement, c'est l'éducation au palais. Et les voyages que vous présentez ensuite, deuxième temps, sont très, très importants dans sa formation. Vous dites qu'au retour de ce long périple, Alexandre remit à son père 16 000 suppliques. Oui. 16 000 suppliques dont bien reçurent une réponse. On sent du caractère. Et ce caractère, on le retrouve, notamment sur le plan militaire, dans son éducation militaire. Et puis dans une vocation militaire qu'il a.
Il avait une vocation militaire, mais je vais vous dire que c'est là qu'on voit le contresens, de la manière dont c'est presque le cinéma qui est responsable, dont on l'a interprété. C'est-à-dire que c'était un homme qui était, dès sa jeunesse, il était très bon, très doux, mais en même temps, il avait un caractère qu'il a montré dans sa vie. Alors, celui face à qui il n'a pas osé le montrer jusqu'au bout, c'est son père, en effet. Et les lettres, la correspondance qui est passionnante, montre très bien la nature des rapports. C'est-à-dire qu'il aimait son père très tendrement. En même temps, il avait des velléités de rébellion incontestable. Il écrivait mon gentil, mon très cher papa. Bon, c'est très émouvant, ces lettres. Quand vous lisez ça, tout le temps, on sent cette tendresse tout de même d'un adulte à l'égard de son père. Et le père, qui était un homme dur, a à l'égard de son fils la même tendresse. C'est-à-dire que le moindre éternuement du fils, il avait des petits problèmes de rhume et des problèmes pulmonaires classiques à l'époque. Mais la moitié de la correspondance, pendant 3 mois, on ne s'entretient que de comment te portes-tu, est-ce que tu as eu de la fièvre, qu'est-ce que t'a dit le médecin. Bon, ça montre, je dirais, des liens d'une proximité très touchante, pas courant dans les cours. Et en même temps, ce garçon avait déjà du caractère, il savait ce qu'il voulait. Quand son père l'envoie se promener à travers l'Europe, à travers la Russie, ça n'est pas tout à fait pareil, parce que vraiment, c'est le pays qu'il va gouverner qui lui montre. Mais il l'envoie à travers l'Europe, pour quoi faire? Pour lui montrer l'Europe, et puis parce qu'il faut le marier. Et le fils avait déjà un petit coup de cœur à Saint-Pétersbourg. Alors le père a trouvé que plus vite il s'en irait, plus vite il oublierait. Déjà, il avait des velléités de faire sa vie avec une jeune demoiselle d'honneur. C'est-à-dire qu'il était toujours très près de la rébellion. Son père la voit se promener et chercher une fiancée dans les cours allemandes, parce que c'est là qu'on devait les trouver pour une bonne raison. C'est que pour devenir impératrice russe, il faut être converti à l'orthodoxie. Les catholiques n'aimaient pas se convertir, tandis que les protestants se convertissaient volontiers. Et ça explique les mariages allemands, alors qu'il n'y a pas de mariage français. Ça, c'est important sur le plan, je dirais, des relations entre les pays. Bon, il va dans plusieurs cours, il voit des jeunes filles, il dit « celle-là ne me plaît pas ». Il en rencontre une qui convenait à moitié, qui deviendra d'ailleurs sa femme et qui sera l'impératrice. Elle ne convenait qu'à moitié parce qu'un certain doute pesait sur la légitimité de sa naissance, c'était à la cour de Hesse. Peu importe, à Darmstadt. Après ça, il s'en va en Angleterre et là, il tombe amoureux de Victoria, qui était une jeune reine, qui n'avait pas encore de prétendant. Ils sont tombés amoureux tous les deux. Et c'est très intéressant car à ce moment-là, il n'écrit plus à son père. Il garde le silence et quand il lui écrit, c'est pour dire « je suis allé au bal avec Victoria ». Les rapports des ministres qui l'accompagnaient étaient très alarmants. Ils ont écrit au père en disant « écoutez, ils sont tout près de se fiancer. Le résultat, c'est que votre héritier va devenir prince consort d'Angleterre ». Et c'est un des moments, car l'histoire d'Alexandre II est une histoire de moments où le destin aurait pu être tout à fait différent. Et pas seulement le sien, ça va au-delà. Supposer un mariage russo-anglais, d'une part, ce n'est pas lui qui régnait, et or il a changé la Russie, mais deuxièmement, ça introduisait une relation russo-anglaise qui modifiait l'histoire européenne. Alors là, le père s'est mis dans une colère noire et il a rattrapé son fils. Mais ça n'a pas été facile et on voit que même ce fils soumis pouvait être rebelle.
Alors en quoi précisément Hélène Carrère-Dancos a-t-il changé la Russie? C'est ce que je vous propose de voir après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Vous écoutez Canal Académie.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, je reçois Hélène Carrère-Dancos, auteure du livre Alexandre II, Le printemps de la Russie, un livre paru aux éditions Fayard. Et pour l'interviewer avec moi, j'ai la joie de recevoir également Isabelle Schmitt, journaliste au Figaro et à Canal Académie. Alors Isabelle?
Oui, nous venons, chère madame, d'évoquer la jeunesse d'Alexandre II et notamment le moment solennel où sur son lit de mort, Nicolas Ier lui demande de tout tenir et de ne rien lâcher. Or, il y a une première et énorme question à laquelle il va s'affronter et sur laquelle il va lâcher, entre guillemets, c'est la question du servage. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi cette question était absolument capitale et puis depuis combien de temps elle existait? Elle s'était posée aux différents souverains.
Et qu'est-ce que le servage russe? Parce que finalement, vous dites qu'il y a une différence entre le servage russe et
l'esclavage. Tout à fait. Bon, le servage, d'abord, avait une particularité en Russie. Il existait depuis... Il a été tardif. Et il a été le fait de l'État. Dans toute l'Europe occidentale, le servage, au fond, c'est la société féodale. C'est une espèce d'improvisation. Et quand l'État se constitue, l'État remet de l'ordre dans tout ça et supprime le servage. Alors, en Russie, au contraire, c'est au XVIe siècle, principalement, quand l'État se renforce, que le servage est vraiment ce qui existait et légalisé, que les souverains, pour s'assurer le soutien des nobles, commencent à leur distribuer des terres avec les serfs. C'est ça qui est fondamental. Alors, ça n'est pas l'esclavage, parce que je dirais que malgré tout, dans le servage, il y avait encore un certain côté humain. Un rapport humain, d'une certaine façon, donné par le souverain gardé, restait le protecteur des serfs en dernier ressort, même si ça n'était pas vrai dans la réalité. Dans l'esclavage, bon, l'esclave, il avait été acheté, il se revendait, c'était une marchandise. Là, c'était tout de même pas tout à fait une marchandise, et le dernier recours, c'était le tsar, c'était le père de tout le peuple. Alors, cela dit, le servage donc tardif apparaît d'autant plus scandaleux au XIXe siècle, déjà au XVIIIe, en Russie, qu'il s'efface en Europe, il reste encore quelques principautés allemandes, où jusqu'à la Révolution française, on voit un peu de servage, mais il n'y a qu'en Russie que ce phénomène subsiste, et subsiste encore jusqu'en 1855, c'est ça la vérité. Et beaucoup de souverains s'étaient posé le problème, à partir du milieu du XVIIIe siècle, et surtout Catherine II, évidemment, qui était une fille des Lumières. C'est une jeune Allemande, quand elle monte sur le trône de Russie, elle a trouvé que tout ça était fort attardé, et elle s'est beaucoup interrogée là-dessus, mais elle n'a rien pu faire. Pour une seule raison, c'est que, d'une certaine façon, la Russie était le pays des coups d'État, où la noblesse, quand elle aimait bien son souverain, qu'elle estimait qu'il faisait ce qu'il fallait, elle le gardait sur le trône, mais très facilement, elle s'en débarrassait. Donc, je dirais que le souverain avait à être prudent, et c'est ce qui a rendu prudent tous les souverains après Catherine II. Son fils ne s'est pas posé le problème, mais Alexandre Ier, le petit-fils de Catherine II, qui avait été élevé par elle pour le pouvoir, qui est un homme remarquable, lui aussi s'est dit qu'il fallait supprimer le servage. Et puis, il n'a pas osé.
Est-ce à dire que la noblesse a un rôle de contre-pouvoir quasiment par rapport au tsar ?
Elle est plus qu'un contre-pouvoir. Elle est le véritable maître du pouvoir. C'est ça qui est terrible en Russie. Et c'est toute l'histoire de Russie, je dirais depuis l'unité, est une histoire de coup d'État. Et ça ne marche que si le tsar sait, au fond, amadouer la noblesse. Mais combien de tsars ont été assassinés ? Le fils de Catherine II, Paul Ier, le mari de Catherine II, Pierre III. Ce sont des nobles qui ont décidé qu'ils ne convenaient pas et hop, on s'en débarrasse. Les successions ont rarement été des successions paisibles. Alexandre II est un des premiers souverains véritablement à monter sur le trône dans des conditions de parfaite légalité. Alors, cette question du servage, elle apparaît, je dirais, au souverain russe comme un problème. Même Nicolas Ier a très bien senti qu'il y avait un problème. Dans la partie éclairée de la noblesse, celle qui, c'est en 1825, s'est réclamée des idées de la Révolution française et de la Constitution, mais c'est une élite. Le servage est en discussion. Dans l'élite intellectuelle qui monte à partir de ces années-là, puisque 1825, le coup d'État de décembre ouvre la porte à une réflexion intellectuelle qui va d'abord être une réflexion intellectuelle sur la voie du développement de la Russie, puis qui va se développer en réflexion politique, et puis tardivement en réflexion terroriste et en action terroriste. Mais même dans ce premier temps, tous les intellectuels débattent du servage. Ils se demandent est-ce que c'est légitime ? D'abord, c'est parce que ça apparaît comme un symbole du retard russe. Ça fait de la Russie un pays qui n'est pas européen, alors que pour tout russe, la Russie est un pays d'Europe. Et ça entraîne en effet un rejet de l'Europe. L'Europe regarde cette Russie avec horreur. Donc, si vous voulez, il y a un scandale du servage.
Ce que vous montrez également, vous parlez d'émulation intellectuelle. C'est un apport, en tous les cas, j'ai découvert une véritable vie intellectuelle en Russie. Il y a plusieurs courants, il y a les slavophiles, il y a les populistes, il y a les nihilistes bien connus. Il y a réellement plusieurs courants de pensée.
Oui, et je vais vous dire ce qui est très important en Russie, parce qu'on a toujours imaginé que c'était un pays verrouillé jusqu'à la Révolution, où personne n'osait rien dire. Alors, ça n'est pas vrai du tout. On pourra dire publiquement avec les réformes d'Alexandre II. Mais avant, il y a une vie intellectuelle intense qui se déroule, comme elle n'est pas légale, qui a une censure très forte sur les écrits, elle se déroule dans des petits cercles, tous ces intellectuels qui sont des gens tout à fait remarquables. L'intelligentsia, c'est un mot russe qui a été inventé par des Russes pour eux-mêmes. Cette vie intellectuelle se déroule dans des petits cercles, c'est-à-dire que ces gens sont enfermés dans des salons. Ils appartiennent au départ à la meilleure société, à la société aristocratique, celle de 1825. Ils se réunissent le soir dans des salons, ils passent la nuit à disserter à l'infini sur ce qu'il faut faire pour changer la Russie. Comme c'est illégal, évidemment, ils ne peuvent pas, ça ne peut pas sortir de là. Mais ces cercles, ce qu'on appelle kroujok en russe, c'est le cercle vraiment. C'est bien cette notion d'enfermement. Avec ces discussions sans fin, chacun propose une solution. Et parce qu'ils sont, ils n'ont pas la possibilité, ils sont clandestins, ils n'ont pas la possibilité de sortir sur le public, forcément ils raisonnent en termes extrémistes dès le départ. Dès le départ, je veux dire, il n'y a pas de barrière aux solutions qu'il se propose. Ça explique beaucoup de choses, parce que même lorsque les choses deviendront plus légales avec Alexandre II, ce caractère extrémiste de la pensée russe, qu'on retrouve de l'anarchisme russe, est beaucoup plus extrémiste que l'anarchisme italien. Le nihilisme, c'est un phénomène russe. C'est-à-dire que toutes ces variantes de la pensée, elles ont un acte de naissance. C'est la pensée enfermée dans la clandestinité et qui, du même coup, ne connaît pas du tout de limites aux solutions proposées. Et son caractère extrême, on le retrouve dans la révolution russe et dans les idées de Lénine. C'est ça qui est extrêmement important. Alors, le débat, dans le premier temps, quand Alexandre II va arriver au pouvoir, le débat, c'est en effet... la grande question, c'est, nous sommes un pays en retard, comment faire pour évoluer ? Et avec, je dirais, deux réponses, la réponse des slavophiles, nous avons un génie naturel, et il faut suivre ce génie naturel, et un Bakounine, tout anarchiste qu'il soit, considéra que la Russie a non seulement un génie naturel, mais une spécificité naturelle. Il dira que c'est un pays qui a le sens de l'insurrection, et il faut laisser et le sens de la communauté, il faut fonder là-dessus. Et puis ceux qui, occidentalistes, qui diront qu'il faut copier l'Occident. Il faut copier la voie suivie par la France, l'Angleterre, etc. C'est-à-dire que la Russie doit se mettre à l'école de l'Occident. Un Dostoïevski, qui apparaît dans cette histoire, puisque c'est un contemporain d'Alexandre II, c'est même dans l'appartement voisin de Dostoïevski que le dernier attentat a été élaboré, Dostoïevski dira que la Russie a son génie propre, l'orthodoxie, tout ça lui formait un génie propre. Bon, ces débats, c'est une vie intellectuelle intense. Et quand Alexandre II va arriver au pouvoir, ça fait partie, on va y revenir sur Servage, la première chose qu'il a faite, il a dit, mais il faut lever la censure. Il faut que ces gens qui débattent, il le sait tout ça, c'est un homme intelligent et cultivé, il faut que ça fasse partie du programme de changement. Et il va élaborer un programme de changement. Mais derrière la question, quelle voie devons-nous suivre, il y a la question du servage. C'est évidemment la question numéro un. Parce que tout simplement, c'est le symbole du retard russe, c'est le scandale absolu. Et là, il y a un accord sur le fait qu'il faut sortir du servage. Simplement, il y a ceux qui se disent, il faut en sortir, on libère les paysans, on leur donne la terre. Et puis ceux d'ailleurs comme Bakounine, qui disent les paysans ont un sens communautaire, il ne faut pas qu'ils le perdent. Et c'est une des grandes idées qui parcourt la pensée russe à cette époque-là, même chez des occidentalistes, même chez un homme comme Herzen. Ils regardent les pays occidentaux, ils disent les pays européens, ils sont mercantiles, ils ont un sens de la propriété trop aigu, ils n'ont pas de solidarité. C'est-à-dire que même les penseurs les plus tournés vers l'Occident, vers le modèle occidental, trouvent dans la Russie, chez les Russes, une générosité spontanée, un sens de la solidarité, qui explique que ce pays ira vers des révolutions.
Vous évoquez une dimension quasi sanctifiée de la paysannerie aux yeux de
Absolument.
Tous les courants de l'intelligentsia,
oui,
c'est ça ?
Parce que le paysan sert pour toute l'élite, pas pour la noblesse. Hein. La noblesse, c'est les possédants. Cette élite, elle sort de la noblesse, mais ce sont des enfants de la noblesse qui prennent leur envol, qui s'élèvent contre leur père et que viendront rejoindre après des gens venus de toutes les couches de la société. C'est ça qui formera l'intelligentsia. Mais pour cette élite, le paysan, c'est celui sur lequel on a construit la prospérité russe, sur lequel chacun a construit sa richesse, de telle sorte que le paysan, c'est sacro-saint. Et ça explique ce qui va se passer avec le mouvement populiste qui appartient à toute cette période, c'est-à-dire que des jeunes gens de la noblesse profondément généreux se rendent dans les campagnes, sortis de leur petit cercle, ils se disent « comment payer notre dette à la paysannerie ?» Ils se rendent dans les campagnes pour dire aux paysans « c'est vous qui détenez la vérité, nous sommes à votre service ». Et alors là, on constate le fossé, je dirais, entre la conscience des paysans et les illusions de cette jeunesse, car en général, les paysans appellent aussitôt les gendarmes en leur disant il y a des fous qui sont là et qui sont des provocateurs. Le mouvement populiste, c'est un mouvement magnifique, ce mouvement populiste. Ces jeunes gens qui sont allés au peuple, ils ont tous fini en prison.
Oui, vous évoquez le malaise des paysans devant ces jeunes bourgeois ou nobles qui se disent mais qu'est-ce qu'ils veulent ?
Mais oui, parce qu'ils arrivent dans l'ensemble déguisés dans des tenues paysannes et ils disent leur idée, nous venons nous mettre à votre service. Alors le paysan sert, vous comprenez, qui est habitué à dépendre de son maître. Le maître vend le domaine et il est vendu avec le domaine. Ben, le paysan sert, donc on se dit qu'on se moque de lui. Vous comprenez, ces jeunes gens qui viennent lui dire qu'ils sont à son service et qu'en plus il est saint, ça ne marche pas encore, qu'il faut bien dire. Dans le servage, il y avait tous les degrés. C'est-à-dire qu'il y a tout de même eu des propriétaires qui se comportaient de façon humaine. Mais reste que c'est un vrai problème. Et ce qui est intéressant, c'est que Alexandre II monte sur le trône en 1856, éduqué 55-56, éduqué par son père, préparé à ne rien débattre, et il sent tout de suite que la première chose qu'il faut faire, c'est le servage. D'ailleurs, il considère que si la Russie s'est effondrée dans la guerre de Crimée, c'est précisément parce que c'est un pays qui manque de la modernité nécessaire. Et il a contre lui, car il faut le savoir, il a contre lui la noblesse, parce que la noblesse, ce sont les possédants. Elle est dans l'ensemble, à part quelques spécimens, personne ne veut de l'abolition du servage dans la noblesse. Il a contre lui la bureaucratie, car c'est un phénomène qui s'est développé depuis Pierre le Grand. Pierre le Grand se méfiait de ses nobles, dont il savait qu'ils prétendaient être les arbitres du trône. Et il a créé aussi une bureaucratie de service qui l'anoblit, mais c'est au fond la bureaucratie qui fait fonctionner le pays. Cette bureaucratie, elle est aussi pour la stabilité. Elle ne veut absolument pas qu'on touche au système. Il a contre lui, je dirais, sa propre famille dans l'ensemble, sauf son frère, un petit peu sa femme, la princesse de Hesse-Darmstadt qu'il avait épousée, qui sera son premier grand amour, et ça sera des années de grand amour. Mais dans l'ensemble, il est solitaire et les paysans ne le soutiennent pas. Les paysans ne comprennent rien à ce qu'il veut faire. Et quant à l'intelligentsia, elle trouve que ça ne va pas assez loin ou pas assez vite. Donc c'est un homme seul et c'est là, on parlait de caractère. Soutenu par son frère, soutenu par quelques personnes. Non seulement il a un caractère, mais il a un sens politique qu'on souligne rarement. Car d'emblée, il décide qu'on va y aller. Il lance l'affaire 1856. 1861, la réforme est acquise. Elle est acquise dans des conditions extravagantes, parce que tous les barrages sont dressés contre lui. Et il a ceci, et il a une idée très moderne, car c'est un souverain moderne. Je crois que c'est ça qu'il faut souligner. C'est un homme du 21e siècle et pas du 19e. Il a pensé qu'on ne pouvait pas faire une réforme d'une telle ampleur contre tous ses adversaires, et ses adversaires c'était tout le monde, qu'il fallait associer la société. Alors il pouvait difficilement associer les paysans, il y associe la noblesse de force. Il fourre tous les nobles dans toutes les commissions, et il a eu l'astuce extraordinaire de mettre à la tête, véritablement, du projet final, son ministre de la Justice, qui s'appelait Panine, qui était le chef de file de l'opposition à la réforme du servage, et dont la signature figure au bas de l'acte du servage. Et quand les nobles ont vu cet homme nommé à la tête des commissions, ils se sont dit « on est sauvés ». Il déteste l'idée de la réforme, donc il va pouvoir amollir le souverain. Ben non, personne ne pouvait amollir le souverain.
Alors, il oblige, vous le montrez bien dans votre ouvrage, il oblige la noblesse à réfléchir sur elle-même.
Absolument.
À voir quel est le rôle qu'elle peut jouer dans ce que serait une nouvelle société.
Exactement, c'est là que je dis que c'est un homme du XXIe siècle. Il a pensé ce que les réformateurs ne font pas en général, que les réformes doivent se faire avec ceux qui en paieront le prix. Et en ce sens, on voit très bien, si vous voulez, la différence. Je l'ai dit, le parallèle, c'est Abraham Lincoln. Alexandre II va libérer plus de 20 millions de serfs. Avec leur famille, ça fait 40 millions de personnes. Hein. Lincoln a libéré 4 millions d'esclaves. Ils ont été assassinés tous les deux, ça c'est vrai. Mais Lincoln a déclenché une véritable guerre civile autour de cette affaire. Et l'Amérique a été à feu et à sang. Et les morts de la guerre civile sont innombrables. Ça s'est passé en Russie, alors que l'opposition est intense. Ça s'est passé d'une façon tout à fait pacifique. Bon, les paysans, au moment où on a annoncé que le servage était aboli un beau jour, ils ont été réunis sur les parvis des églises, on leur a lu l'acte d'abolition. Beaucoup n'ont pas compris. Ils ont dit « mais où est la terre ?» Car on leur a donné des terres, mais il fallait un processus de transition qui était très difficile. Car il fallait, on leur a vendu. Le tsar a donné largement les terres de la couronne pour compenser. Et les terres de la noblesse, ils ne pouvaient pas la déposséder comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait que les paysans achètent des terres à la noblesse. La Russie, il ne faut pas l'oublier, cette année-là, était ruinée par la guerre de Crimée. Le trésor était à sec. Par conséquent, ce n'est pas lui qui pouvait financer cette réforme, mais il a financé les prêts aux paysans. D'abord les prêts aux communautés paysannes, puis ensuite les prêts aux paysans. Donc il y a tout de même un transfert de terres. Mais ça ne se fait pas en un jour. Il y a une période de transition. Or, les paysans, qui ne savaient ni lire ni écrire, ils ont été dépassés par la situation. Ils attendaient, en fait, les paysans russes, ce n'est pas la liberté qu'ils voulaient, c'était la terre. Et ils ne comprenaient pas que la terre venait avec la liberté. Ça a été un peu compliqué, ils ont allumé des incendies par-ci, par-là, enfin, mais on ne peut pas dire, il n'y a pas eu de guerre civile, et en définitive, tout s'est passé très calmement.
Cette idée de liberté, pardon, mais fait écho précisément à la phrase que dira le premier homme qui essaye d'organiser un attentat contre Alexandre II et qui lui dit « Quelle sorte de liberté as-tu apporté aux paysans ?»
C'est d'ailleurs là que commence au fond la tragédie d'Alexandre II. Car pendant quelques années, il est monté sur le trône, et il y a pratiquement 10 ans de réformes ininterrompues. Car dans cet intervalle, et je vais y venir tout de suite là, Alexandre II a parfaitement compris qu'il ne suffisait pas de donner la terre aux paysans, que s'il voulait une Russie moderne, il fallait tout changer. Mais toutes les structures, toutes les institutions. Or, 1866, c'est-à-dire 5 ans après la réforme du servage, alors qu'il est depuis 10 ans sur le trône, qu'il est tout de même un homme qui, je dirais, qui a levé tous les obstacles à la publication, la liberté de parole existe dans le pays, c'est très important. Un homme lui tire dessus. Et, bon, premier réflexe, il n'a pas imaginé un seul instant que quelqu'un s'attaquerait à sa personne. Et ce qui est très amusant, son réflexe a été de dire « mais c'est un Polonais ». Et pourquoi un Polonais ? Parce que la Pologne avait été dépecée à 3 reprises et anéantie, et une partie de la Pologne se trouvait en Russie. Ça a été l'œuvre largement de Catherine II, mais pas elle seule, de Joseph II et de la Prusse. Mais le dépeçage de la Pologne a pour effet qu'une partie de la Pologne se trouve en Russie, qu'elle bénéficie d'ailleurs de droits plus grands, de libertés plus grandes, au moins jusqu'au soulèvement 1863, que les autres parties de l'Empire. Donc on sait qu'il y a une ébullition en Pologne, puis il y a des Polonais immigrés qui fréquentent tous les milieux de l'émigration marxiste, puisqu'on est à la période du début du marxisme, autour de Marx, il y a des tas de Polonais partout, et il paraît plausible qu'un Polonais qui n'aime pas les Russes tire sur l'empereur. Et c'est là que cet homme lui répond aimablement, je ne suis pas polonais, je suis russe. Et il dit, pourquoi tu as tiré sur moi? Et il dit, parce que, en fait, quelle liberté as-tu donné aux paysans? Ce qui, pour Alexandre II, est totalement incompréhensible. On a d'ailleurs monté là, et je ne veux pas le raconter, parce que c'est raconté dans le livre, on a monté un mythe pour effacer ce sentiment, parce que cet homme a prétendu qu'il était d'origine paysanne. Ce n'était pas tout à fait vrai non plus. Mais on a monté un véritable mythe pour effacer l'idée qu'un russe pouvait tirer sur l'empereur qui avait libéré les paysans au nom de la paysannerie. Et ça, on a inventé une histoire qui permettait de penser que, en fait, les paysans étaient du côté de l'empereur. C'est intéressant parce qu'on voit la production de mythes politiques déjà dès cette époque.
Alors, au-delà de cette réforme paysanne, il y a bien d'autres réformes. C'est ce que je vous propose de voir, Hélène Carrère, dans Cause, dans un instant.
«
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Vous êtes à l'écoute de Canal Académie et je reçois avec Isabelle Schmitz, Hélène Carrère-Dancos, auteur du livre Alexandre II, le printemps de la Russie, un ouvrage paru chez Fayard. Alors Hélène Carrère-Dancos, nous avons vu la réforme majeure dans l'histoire russe, hein, et vous insistez bien sur le terme dans l'histoire russe parce qu'il y a un tournant
absolument
de l'abolition du servage, mais il y a bien d'autres réformes. Et ces réformes, vous les mettez dans votre chapitre, vous les présentez dans votre chapitre Le printemps russe, 1861-1865, de multiples réformes que vous allez nous présenter. Mais pourtant, à côté de ces réformes, il y a toujours le paradoxe du mécontentement.
Alors, je vais vous dire, d'abord, les réformes, elles couvrent tout. En quelques mots, Alexandre II s'est aperçu que ce n'était pas la peine de libérer les paysans si des tribunaux allaient les rattraper dans de mauvaises conditions, car la justice russe était absolument scandaleuse, et c'était une justice vraiment de pays sauvages, qui distribuait, où il n'y avait pas de vrai procès, et qui essentiellement distribuait des châtiments corporels. Il a aboli les châtiments corporels, il a fait une réforme judiciaire qui a fait basculer la Russie du retard à l'avant-garde de toute l'Europe, car c'est la justice la plus moderne qu'on peut imaginer, qu'il a mise sur pied. Elle est véritablement digne de notre époque. Et c'est une révolution qu'on n'a pas très bien vue non plus. Il fallait aussi, il a considéré que s'il libérait la paysannerie, il fallait qu'il y ait une société qui participe aux décisions concernant son propre destin. Et il a fait une réforme de l'administration locale, la réforme des Zemstvo, c'est-à-dire des assemblées de la terre, des assemblées locales, qui va du sommet de l'État jusqu'en bas, jusqu'au dernier village.
C'est l'embryon de la représentation ?
Ah, c'est une véritable représentation, car c'est un système électif qui va du bas en haut de la société, à laquelle justement, cette paysannerie, l'idée, c'était l'éducation politique avant toute cette paysannerie, à laquelle cette paysannerie doit participer à tous les niveaux. Alors, ça n'a pas très bien ça a marché. Ça transforme le pays, hein, qui était dirigé par des gouverneurs, et les gouverneurs représentaient le tsar. Il n'y avait aucune participation populaire. Et là, tout d'un coup, la société participe. Mais ce qui n'a pas très bien marché, c'est que comme la paysannerie, elle était analphabète. Vous ne pouvez pas éduquer d'un seul coup les paysans. D'une part, elle n'a pas très bien compris ce que ça signifiait. Deuxièmement, les paysans ne se jugeaient pas toujours capables d'exercer des fonctions électives. Et souvent, ils élisaient, au lieu d'élire l'un des leurs, ils élisaient le seigneur, ils élisaient leurs anciens maîtres. Bon, mais il faut du temps pour qu'une telle réforme passe. À cette réforme, il a ajouté, c'est une réforme capitale, hein, parce qu'au fond, elle crée ce qu'on appelle, dans notre début de siècle, une démocratie participative. Et ça, c'est absolument fondamental. Il a réformé, je continue, il a d'abord réformé, évidemment, l'opinion publique, c'est-à-dire qu'il a donné la liberté de parole, il a levé la censure, il y a une presse fantastique qui existe en Russie à ce moment-là, les écrits véhiculent des idées tout à fait révolutionnaires sans aucune mesure. Il réforme tout l'enseignement, depuis l'université, les universités sont autonomes à ce moment-là, jusqu'à l'enseignement de base, précisément, une fois encore, pour que cette société qui a reçu la liberté soit éduquée et puisse en profiter. Il va réformer en deux étapes. La seconde étape sera plus tard, le service militaire qui pesait au fond. Qui est-ce qui était un service militaire par tirage au sort? Et qui est-ce qui était tiré au sort pour 25 ans? C'était le pauvre paysan. Les fils de nobles, ils n'étaient pas tirés au sort. Ils étaient officiers et ça allait très bien. Bon, d'abord, il raccourcit le service militaire. Et en 1875, il établira le service militaire universel. Hein, la conscription universelle, ça c'est très moderne, hein. Nous ne sommes pas à une époque où dans beaucoup de pays le tirage au sort va subsister après lui. Je dirais que tous les éléments de la vie publique sont transformés. Alors, ce qui va manquer à ça, c'est ça qu'il faut dire. Anatole Leroy-Beaulieu, qui était un grand historien de la Russie, le meilleur je crois, avait très bien vu le problème. Il a dit, la maison est entièrement reconstruite, mais il manque le toit. Et le toit, c'était le système politique lui-même, c'est-à-dire l'autocratie. Et ça, tout de même, il était l'enfant de son père. L'autocratie, il considérait que c'était bon. Et l'horreur absolue, c'était la monarchie constitutionnelle. Le mot de constitution, toute son éducation, le rejetait. Et il l'a rejeté. Alors, je dirais qu'il a fait le gros des trains de réforme jusqu'en 1866. Et vous dites, il y avait le mécontentement subsistait. Oui, parce qu'il y a justement cette élite qui pousse, qui trouve que ça ne va pas assez vite, et qui pense que ça doit conduire vers un système politique transformé. Et ça, je dirais que tout son être le récuse. Ça ne lui paraît pas possible. Ce qui explique d'ailleurs que pendant quelques années, il va se consacrer à la politique étrangère. Parce que les choses sont réglées chez lui. Il veut redresser la situation à l'extérieur et il le fera superbement puisqu'il a grandi son empire. Et puis tout de même, la politique étrangère réussit, les réformes réussies. À partir de 1875-77, il constate qu'il manque le toit de l'édifice. Et je dois dire que là, il y a eu une lutte intérieure chez cet homme. Jusqu'où aller ? Tout en lui refusait ça. Et en même temps, il savait qu'il fallait y aller. Alors, c'est aussi une période particulière de son existence. Et je crois qu'il faut s'y arrêter parce que ça explique beaucoup de choses. Ça se passe dans les 15 dernières années, après le premier attentat que vous avez évoqué tout à l'heure, en 1866. Il a rencontré celle qui sera Katia. Il a vécu des années heureuses, il a des héritiers, il a tout ce qu'on veut. Tout va bien. Mais au moment de cet attentat, il y a aussi une tragédie dans sa vie. Il a un fils qu'il a élevé. Son héritier a été élevé comme lui, superbement, pour le trône, et il est parfait. Le fils meurt. Il a été très malade et il meurt subitement, au grand désespoir de ses parents. Mais ce n'est pas seulement un désespoir de parents, c'est un désespoir de souverain qui sait que l'héritier qui était fait pour ça disparaît. Et l'héritier qui arrive après, il n'est pas fait pour ça. Il est pâteux, il est moins intelligent, il n'a pas reçu cette éducation raffinée, il est trop tard pour s'y mettre. On va faire ce qu'on peut pour rattraper le désastre, mais ça sera Alexandre III, entre Alexandre II et Alexandre III, la différence est très grande. Un héritier, d'ailleurs, je dirais, assez étrange, enfin un peu sans scrupule, puisque la première chose qu'il s'empresse de faire, c'est de prétendre que son frère mourant l'a chargé d'épouser sa fiancée, c'est-à-dire que celle qui devait régner sur le trône de Russie. Après Alexandre II, il régnera effectivement, mais pas avec le fiancé qu'elle avait, avec celui qui lui a succédé. Et ça se fait sur le lit de mort, hein. C'est très amusant ça. Bon, mais ce qui n'a pas tellement plu Alexandre II, si vous voulez, il est désarçonné par l'attentat, par la mort de son fils, je dirais par les conditions aussi dans lesquelles ça s'est passé. Il a l'impression d'avoir accompli un très gros travail et de n'être pas populaire, en effet, parce qu'il y a cette impatience autour de lui. Et tout d'un coup, il rencontre cette jeune fille. L'impératrice est déjà, elle a une santé faible, enfin tout ça n'est, le grand amour est passé, il est loin déjà. Et il tombe amoureux. Et alors là, ce sont 15 années extraordinaires qui sont marquées d'abord par le fait qu'il a une seconde vie, qui pour cet homme consciencieux le trouble, hein, c'est malgré tout, d'abord ça fait un problème avec sa famille, il sent bien que ce n'est pas comme ça qu'on vit. Une fois encore, ça n'est ni une amourette ni une liaison. C'est une passion et c'est une vraie vie, ils ont des enfants ensemble, et c'est le moment où sa vie va être menacée à partir de ce moment-là, justement, c'est dans ces années-là, que vont commencer les attentats. Dans les dernières années de sa vie, il avait eu l'attentat de 1866, un attentat à Paris, mais tout ça, c'était, je dirais, des mini-attentats. C'était fait par des amateurs qui ne savaient pas tuer. Au milieu des années 70, commence la vraie série des attentats, c'est là la tragédie. Là, le mouvement, je dirais, de pensée est devenu un mouvement terroriste, et un mouvement terroriste qui fait les choses à la russe, légalement, c'est-à-dire que des terroristes se réunissent en séance privée, condamne à mort, ont un débat, condamne à mort, mais vraiment, en votant le souverain, et par conséquent décide que puisqu'il est condamné à mort, ils vont le tuer.
Il y a un tournant précisément sur le terrorisme, qui est un tournant intellectuel que vous montrez, c'est le procès de cette Vera Zasulich, qui est ni plus ni moins que la naissance, au fond, d'une forme de totalitarisme, peut-être qu'on va le concevoir.
Absolument.
Au début du XXe siècle.
Oui, et qui est un terrorisme à la russe. C'est-à-dire que c'est une jeune fille du meilleur monde hein, qui tire sur un gouverneur. Jusque-là, les terroristes, tout de même, on les jugeait et ça se passait mal. Son procès, c'est un tournant parce que, d'abord, le terrorisme devient populaire. Alors que ce souverain n'a pas cessé de réformer et qu'il est en plus d'une très grande indulgence. Alors, il est d'une grande indulgence, mais je voudrais dire aussi quelque chose qui est intéressant. C'est que Katia, charmante jeune femme, mère de famille, va le pousser à la rigueur. Elle lui écrit dans ses lettres, elle lui dit « tu dois sévir, tu dois montrer de la fermeté, etc. » Ce que dans sa bonté naturelle, il n'a pas envie de faire, car c'est un homme profondément bon et qui a le sentiment de la justice. Mais là où il y a le tournant, c'est que bon, les tribunaux ont été réformés, ils fonctionnent très bien. Vera Zasulich est défendue par une nuée d'avocats. D'ailleurs, tous les avocats de Saint-Pétersbourg se sont précipités pour la défendre. Alors qu'on a eu du mal à trouver un procureur. Ça montre, si vous voulez, l'évolution des esprits. Et qu'elle est acquittée, il y a une foule dehors, aux applaudissements de la foule, et pratiquement on la traite comme une sainte. Et d'ailleurs, elle dit qu'elle a accompli son devoir, et que c'est raté, mais qu'elle en a bien recommencé. Et il y a véritablement, je dirais, un fanatisme du terrorisme, qui est quasi religieux, ça aussi, qui prend des formes toutes spécifiquement russes. Hein. Qu'on retrouve d'ailleurs quand on lit Dostoïevski, les démons ou les possédés, qu'on traduit comme on veut, bon, son héros est comme ça. Et il y a à ce moment-là toute une palette de terroristes et de penseurs, dont Nietzscheïev, ce terrible personnage qui a servi de modèle à Dostoïevski, qui s'en va en Angleterre et qui va terroriser même Bakounine par son excès. Il avait un mouvement qui s'appelait la hache. C'est pas par hasard la hache, ça veut dire on décapite. Des gens voient apparaître dans le discours de tous ces gens-là, Verlassassoulitch se méfiait de lui, il faut bien reconnaître tout de même. Mais on voit apparaître une idée, c'est que ce que Lénine dira, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, c'est-à-dire qu'il faut tuer beaucoup de Russes, beaucoup de gens, il ne faut pas compter avec les vies humaines pour transformer le pays. Bon, mais ça c'est un tournant, mais ça appartient, je dirais à partir de ce moment-là, on entre dans une série d'attentats admirablement organisés contre le souverain, et qui ont des conséquences aussi sur sa vie privée, c'est-à-dire que les attentats font qu'il ne peut plus garder sa seconde famille à proximité du palais, parce qu'il ne peut pas se promener toute la journée. Il l'installe dans le palais à un autre étage que sa famille réelle, que sa femme, et ça entraîne une crise politique extrêmement grave. C'est-à-dire que, malgré tout, ce souverain qui est très pieux, qui veut accomplir son devoir à tous égards, se trouve dans une situation fausse que toute sa famille condamne, notamment son héritier. Et son héritier, ça explique aussi beaucoup de choses pour l'avenir. Son héritier se pose contre lui en défenseur de la morale, en défenseur aussi en défenseur de l'ordre. Et il regarde avec inquiétude les réformes de son père, d'autant qu'il sent que son père évolue dans le sens d'une réforme politique. Et c'est à ce moment-là qu'Alexandre II vraiment se pose le problème de la transformation politique de la Russie. Il sent qu'il faut aller dans cette direction. Il a eu le courage, dans la dernière année de sa vie, de prendre pour Premier ministre Loris Melikov, un gouverneur arménien que personne ne connaissait, mais qui est un homme, je ne sais pas si c'était un esprit libéral, il devait être un peu libéral, mais surtout c'était un homme très avisé qui s'est dit qu'en encourageant le souverain dans les idées de réforme, bah, il sera, je dirais, à la tête d'un pays moderne. Et il y a une complicité qui s'établit entre ces deux hommes pour élaborer déjà le progrès de transformation politique avec Alexandre II, le sait très bien, c'est-à-dire réforme des institutions au sommet. Ça ne s'appellera pas Constitution, mais Alexandre II le dit sans arrêt dans sa correspondance et dans son journal. Il dit « je sais bien que c'est la Constitution qui est au bout ». Et il dit d'ailleurs « je sais que c'est tout le contraire de ce que je veux faire, mais je dois le faire ».
Hélène Carrère dans Cause, nous nous retrouvons après cette toute dernière pause. Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à Alexandre II. J'ai l'honneur de recevoir Hélène Carrère d'Encausse, auteur du livre, donc une biographie d'Alexandre II, Le printemps de la Russie, paru aux éditions Fayard. Et Isabelle, vous aviez une question donc sur cette constitution à laquelle pense Alexandre II, même si intellectuellement il n'y est pas encore prêt.
Oui, vous dites dans cette présentation du projet de constitution qu'il s'y résout, elle s'impose à lui comme une évidence, mais qu'en même temps il a la ferme décision d'abdiquer.
Alors ça c'est une chose extrêmement intéressante, car malgré tout c'est l'aboutissement de son œuvre, c'est l'aboutissement qu'on attend de lui et qui est capital. Et il écrit dans sa correspondance et dans son journal, il dit « je vais accomplir ce dernier pas, ça ouvrira une constitution ». Mais moi, je vais quitter le pouvoir à ce moment-là. Et d'ailleurs, il prend des dispositions puisqu'il transfère de l'argent. Et il veut acheter un domaine sur la Côte d'Azur pour y vivre avec sa maîtresse. Alors, s'ajoute à ça un autre élément, c'est justement Katia. Parce qu'il y a un ensemble de décisions qu'il prend à ce moment-là. Il décide de son texte constitutionnel. En même temps, l'impératrice vient de mourir. Il a épousé Katia dans des conditions dramatiques parce qu'elle a fait pression sur lui pour que ça se passe à toute vitesse. Elle voulait être épousée. Et il l'a épousée, je dirais, au-delà des... Les limites de la décence ont été oubliées, ce qui aussi lui pose un problème. Et elle veut être couronnée. Et il estime qu'une femme qui a vécu 15 ans dans la clandestinité, avec laquelle elle a eu 4 enfants, dont 3 sont encore vivants, doit en effet être couronnée, ce qui est contraire aux lois de la couronne. Il doit lui donner, ce dernier cadeau. Mais c'est contraire aux lois de la couronne, parce qu'il faut qu'elle soit de sang royal. Donc on ne peut pas la couronner. En plus, ça pourrait conduire son enfant illégitime à se prendre pour l'héritier du trône. Enfin, ça pourrait introduire un désordre dans la succession. Il veut rassurer tout le monde là-dessus. Et je dirais que sa décision d'abdiquer, qu'il annonce à Katia, il dit « je vais te couronner », il n'a pas eu le temps puisqu'il a été assassiné, mais « je vais te couronner et j'abdique ». Il le dit à elle, il le dit dans son journal. C'est-à-dire que je pense que le tout, et ça éclaire le caractère, il sait qu'il a fait ce qu'il fallait en prenant la décision constitutionnelle. Il sait qu'il ne fait pas exactement ce qu'il faut en décidant de la couronner, mais justement pour tout cela, il décide de partir et de laisser la place à celui qui assumera son œuvre. Et alors c'est là, je dirais que l'histoire aurait pu être différente, et pas seulement l'histoire de la Russie. Car il signe le texte qui va donner la naissance à une constitution juste avant d'aller se promener voir la parade du manège. Mais le texte n'est pas promulgué. Il faut 48 heures pour la promulgation. Et quand l'héritier, quand on le ramène déchiqueté et qu'il meurt dans des conditions épouvantables, son héritier a eu des états d'âme. Il disait malgré tout, il a vu son père déchiqueté, il aimait son père, et il s'est interrogé pendant quelques jours, que faire? Il était poussé dans un sens qui consistait à déchirer le texte constitutionnel et à ne pas changer la Russie. Mais il a hésité, et c'est parce que le texte n'était pas promulgué qu'il s'est senti le droit de le faire. Sans ça, il ne l'aurait pas fait. Or, la conséquence de cela, il mourrait 48 heures plus tard où le texte était promulgué, Alexandre III n'y aurait pas touché, ça c'est évident, il l'a d'ailleurs dit, et à ce moment-là, la Russie était une monarchie constitutionnelle, la révolution russe ne trouvait pas de place, et l'histoire européenne eût été différente.
Hélène Carrère-Dancausse, nous arrivons au terme de cette émission. Peut-être une dernière question. J'aime beaucoup les paradoxes et je commençais cette émission sur un paradoxe. Je voudrais terminer sur un autre paradoxe que vous présentez. Au fond, c'est un grand réformateur et sa place de réformateur lui a donné une aura, j'allais dire un pouvoir autocratique plus que tout autre souverain. N'est-ce pas au fond cette impasse qui a amené le peuple à ne pas être reconnaissant?
Non, je ne crois pas. Pardonnez-moi de vous contredire, mais je pense que s'il a dû utiliser d'un pouvoir considérable, c'est tout simplement parce que sans ça, il n'aurait pas pu faire ses réformes, étant donné qu'il n'y avait personne avec lui. Le peuple ne se préoccupait pas beaucoup de la nature du pouvoir. Le bon peuple de base, il se préoccupait de la terre qui ne venait pas assez vite. Et je dirais que l'aristocratie était mécontente des concessions qu'il faisait. Je voudrais finir là-dessus, c'est que sa mort s'est passée dans drôles conditions. Bon, il y a eu 7 attentats, mais en fait, quand on regarde les archives, on voit très bien, les archives de la police montrent que la police avait très bien été allée visiter les endroits où les terroristes faisaient des tunnels pour mettre les bombes là-dessous sur son passage. Bon, il n'arrêtait personne, il ne voyait rien. On peut s'interroger tout de même, pour savoir jusqu'à quel point il n'y a pas eu une certaine passivité, je dirais de l'élite, si on ne s'est pas dit, après tout, ces réformes, ça mettrait fin aux réformes. Et d'ailleurs, devant son cadavre, son fils avait à côté de lui le futur Nicolas II, son petit-fils, un petit garçon qui regardait avec horreur un grand-père dont l'œil pendait, qui était complètement brisé. Et le mot était, voilà ce que c'est que de réformer. Le peuple ne comprend pas, il vous assassine. Et d'une certaine façon, ça a dicté, le conservatisme futur de la Russie.
Eh bien, merci beaucoup, Hélène Carrère-Dancausse, d'être revenue au micro de Canal Académie donc pour nous présenter votre ouvrage, Alexandre II, le printemps de la Russie, paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci.
Merci.
Et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.